La réputation du sermon sur la montagne n'est plus à faire. On l'a appelé à juste titre la charte de la vie chrétienne. Le message en est surprenant et la manière dont il est présenté davantage encore. Car celui qui parle n'est pas un orateur à l'éloquence enflammée, ni un philosophe au raisonnement subtil. Il se révèle comme le Dieu personnel de l'homme, le maître souverain de ses créatures qui se voient contraints d'intervenir dans leur existence. Les prophètes avaient coutume de précéder leur prononcement de la formule solennelle « Ainsi parle l'Éternel ». Lui parle à la première personne du singulier. Vous avez appris qu'il a été dit « Même moi, je vous dis ». On peut presque dire qu'il fait irruption dans la vie quotidienne de chaque homme et qu'il jette sur son existence une lumière implacable. Il considère l'intérieur et l'extérieur. Il relève les anomalies dans les attitudes des hommes, leurs erreurs, leurs fausses espérances, leurs ambitions d'avance vouées à l'échec. Il parle aussi des possibilités latentes en chaque homme. Il montre comment la vie doit et peut être débarrassée de sa gangue impure pour briller comme de l'or aux yeux du Créateur. Dans le sermon sur la montagne, nous comprenons ce qu'il a voulu dire en affirmant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ces déclarations sont tellement bouleversantes qu'aucun homme, aucune époque, ne devrait y être indifférent. Jésus se présente à nous comme celui qui doit intervenir dans notre existence pour redresser une situation désespérée, pour réparer ce qui s'est détérioré, retrouver ce qui est perdu, orienter ceux qui sont égarés, éclairer ceux qui ne savent plus que croire, rendre l'espérance à ceux qui n'en peuvent plus, indiquer la vie à ceux qui n'ont plus que la mort pour horizon. Son message nous atteint à travers près de 20 siècles, avec le même impact. Il a gardé l'éclat originel et la force stimulante qui attire irrésistiblement les cœurs sincères. Mais pour que son intervention soit efficace, il exige l'action, c'est-à-dire l'obéissance. Et c'est à ce point, à la fin du discours, que se situe cet appel à l'action sous la forme d'une parabole dont la puissance d'évocation est extraordinaire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parmi ses auditeurs, personne n'a pu se méprendre sur le sens de cette parabole. Personne n'était assez fou pour se mettre à construire une maison avec pour simple fondation le sable palestinien. Ils connaissaient tous la soudaineté des orages pendant la saison d'hiver. De véritables torrents se créaient en quelques minutes, balayant tout sur leur passage. C'est pourquoi on avait soin de creuser bien avant, comme le dit Luc dans le texte parallèle, jusqu'à la roche, et alors seulement on posait le fondement. Il doit en être de même de l'édifice de notre vie. Jésus déclare catégoriquement que celui qui rejette l'enseignement fondamental qu'il a donné est en train d'édifier quelque chose qui est voué d'avance à la ruine, parce que les fondations ne valent rien. Tout ce qui n'est pas fondé sur le roc de la parole du Christ repose fatalement sur le sable des chimères, de l'aveuglement et de la folie des hommes. On sent combien cette parabole constitue un terrible avertissement. Les torrents, la pluie, le vent et sa ruine a été grande. En dehors de Christ, non seulement rien n'est garanti, mais tout est voué à la ruine. Tout ce qui est visible est passager. Il faut percevoir la réalité éternelle des choses invisibles. Combien ces paroles sont encore nécessaires aujourd'hui, plus que jamais. Interrogez les hommes. Sur quoi sont-ils en train de construire leur existence? Quelles sont leurs ambitions? Ils veulent tous réussir. Ils veulent bien construire leur maison. Mais sur quoi? C'est en général l'argent qui compte avant tout. L'argent que l'on a déifié. Synonyme de sécurité, de succès et de puissance. Bien sûr, dira-t-on, on a besoin d'argent. Sans argent, c'est la misère, c'est vrai. Et le Seigneur n'interdit pas de posséder de l'argent. Il n'interdit même pas d'être riche. Il condamne cette anomalie dans l'attitude des hommes qui consiste à aimer l'argent au point qu'il devient l'objet principal de leurs préoccupations. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, dit l'apôtre Paul. Et Jésus déclare qu'il est impossible de servir à la fois Dieu et l'argent. On reconnaît dans cette phrase encore le maître qui impose un choix entre deux alternatives, Dieu ou l'argent, le sable ou le roc, pour moi ou contre moi. Oui, il faut choisir, et dans ce sens, chaque homme est maître de sa destinée. « Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort », avait dit le prophète Jérémie de la part de Dieu. Et combien ne choisissent-ils pas de s'engager résolument dans le chemin large et spacieux qui conduit à la perdition ? Combien ne choisissent-ils pas de bâtir sur le sable en se laissant emporter par le matérialisme effréné des temps présents ? Aimer l'argent, c'est aimer le plaisir et faire de sa vie essentiellement une recherche constante de la jouissance et du confort matériel. Pour cela, il faut éliminer Dieu et toute moralité contraignante. On garde le strict minimum pour se conformer à une certaine morale sociale. Sans le dire, on pense « mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Cette philosophie est exploitée à fond par certaines presses, hebdomadaires, revues et illustrées qui répandent le poison du matérialisme, respiré avec avidité par des millions. Partout, à tout moment de la journée, l'homme est l'objet de spéculations pour la réclame, l'industrie des plaisirs, la production avide de gains plantureux. Tout cela se ligue contre lui pour exacerber la chair et ses appétits, le désir de paraître, l'amour de l'argent et de la gloire. Et souvent l'homme s'abandonne. Parce qu'il peut vivre avec tout le confort, qu'il possède une voiture, qu'il est bien assuré, il s'imagine qu'il est indestructible. De plus, la science fait des progrès extraordinaires. Bientôt l'homme mettra les pieds sur la lune. La science, l'argent, l'avenir assuré, l'homme essaie de se rassurer. Folie de l'homme qui cherche des garanties là où il n'y en a pas. Folie de l'homme qui cherche la sécurité là où il n'y en aura jamais. Folie de l'homme qui brûle son temps et sa vie à courir après le superflu et qui néglige l'essentiel. C'est là le message du sermon sur la montagne. Il passe tout son temps et toute sa vie à construire sa maison, à améliorer son apparence, à l'embellir, à l'enrichir, à la décorer. Mais lorsque viennent les pluies des jours sombres, les vents de l'épreuve et les torrents de la souffrance, cette belle maison ne sert à rien. On la croyait un refuge sûr et confortable, mais elle se lézarde, elle s'effrite, elle chancelle, elle s'écroule et se laisse emporter vers le néant, parce qu'elle ne reposait pas sur un fondement solide, laissant son constructeur sans abri, nu, faible, et terrorisé dans la tourmente. En effet, que peut l'argent et que peut la science devant la souffrance morale et ses multiples causes, devant le chagrin de ceux qui viennent de perdre un être cher ou devant la mort, cet événement qui nous attend tous. Certaines maisons peuvent traverser l'existence à l'abri des grandes épreuves, en calfeutrant tant bien que mal les crevasses dans les murs. Mais vient l'heure suprême du jugement, où ne subsisteront que les maisons fondées sur le roc de la parole de Christ. Comment peut-on pratiquement fonder sa vie sur le Christ ? Tout d'abord, en comprenant que nous avons besoin d'entendre ce qu'il a dit, que ce sont des paroles qui sauvent la vie, car sans elles, nous étions en train de la perdre. Deuxièmement, en comprenant que Jésus n'est pas venu nous enseigner une religion que nous devons greffer à notre existence, comme un à côté de la vie, dans lequel nous pouvons nous réfugier en cas de besoin. Non, pour lui, la vie et la religion se confondent. Ou bien on vit pour lui et avec lui, ou bien on vit sans lui et contre lui. Il faut choisir maintenant, aujourd'hui, car demain, il sera peut-être trop tard. Troisièmement, il faut agir. Non pas seulement l'invoquer en criant « Seigneur, Seigneur », mais en mettant en pratique les règles qu'il nous enseigne. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? N'avons-nous pas souvent mérité ce reproche ? La foi, la vraie foi, est celle qui agit, c'est celle qui obéit. Autrement, elle ressemble à un corps sans vie, c'est un cadavre. La foi ne discute pas ses paroles. Elle ne se demande pas constamment si ses commandements sont conciliables avec la vie moderne. Elle n'essaie pas d'adapter les paroles du Christ. Elle s'efforce d'y obéir. Elle les met à l'épreuve en les mettant en pratique. Et cela dans toutes les phases, sous tous les aspects de l'existence. Dans la souffrance, dans l'épreuve, en face de mon prochain qui m'aime ou qui me hait, en face du lendemain qui m'inquiète, dans mes rapports intimes avec Dieu, etc. Je dois toujours m'inquiéter de faire, de penser, d'être ce que le Christ veut, quelles que puissent être les conséquences. Je dois demeurer assez lucide en tout temps pour demeurer disponible à sa volonté. C'est là le secret. Pour cela, il faut que sa parole soit présente dans ma vie. Elle sera à la fois le ciment avec lequel j'assemblerai mes pierres chaque jour et le fondement inébranlable devant les épreuves de la vie et l'épreuve ultime qu'est la mort. Le Christ est réellement, avec sa parole, la seule garantie qui ne trompe jamais. Il est la vérité. Il n'est aucune situation dans la vie, aucun problème pour lequel le Christ ne soit pas une solution suffisante. Alors que tout le reste se dérobe, lui seul demeure jusqu'à la fin, jusqu'au-delà de la mort, où il nous donne rendez-vous. Je conclurai mes remarques aujourd'hui avec cet hommage que Léon Tolstoï dépose aux pieds du Seigneur. Jésus-Christ apprend à l'homme qu'il y a en lui quelque chose qui l'élève au-dessus de la vie, rempli d'ambition, de peur et de jouissance. Qui écoute son enseignement a le sentiment d'être comme l'oiseau qui, inconscient jusqu'alors de posséder des ailes, s'aperçoit soudain qu'il peut voler librement, sans avoir rien à craindre.